Sexte. Où l'on trouve Séverin assassiné sans plus trouver le livre qu'il avait trouvé. Nous traversâmes l'esplanade d'un pas rapide et le souffle angoissé. Le capitaine des archers nous conduisait vers l'hôpital et comme nous y arrivions, nous découvrîmes dans la dense grisaille un fourmillement d'ombre. C'étaient des moines et des servants qui accouraient, c'étaient des archers qui barraient la porte et empêchaient l'accès.
Ceux qui sont armés de pied en cap, je les avais envoyés pour chercher un homme qui pouvait faire la lumière sur tant de mystères, dit Bernard.
Le frère herboriste ? Demanda stupéfait l'abbé.
Non, vous allez voir,
dit Bernard en se frayant un chemin pour entrer. Nous pénétrâmes dans le laboratoire de Séverin et un spectacle pénible s'offrit à nos yeux. Le malheureux herboriste était étendu dans un lac de sang, la tête fendue. Tout autour, on eût dit que les étagères avaient été dévastées par une tempête. Flacons, bouteilles, livres, documents étaient éparpillés dans le plus grand désordre et dans un état désastreux. À côté du corps se trouvait une sphère armillaire, grande comme au moins deux fois la tête d'un homme. De métal finement ouvragé, surmonté d'une croix d'or et fixé sur un court trépied décoré. Les autres fois, je l'avais remarqué à gauche de l'entrée, placé sur une table. À l'autre bout de la pièce, deux archers tenaient fortement le scélérier qui se démenait en protestant de son innocence et qui redoubla de cris quand il vit l'abbé.
« Seigneur ! » hurlait-il. « Les apparences sont contre moi ! Je suis entré quand Séverin était déjà mort et ils m'ont trouvé tandis que j'observais le souffle coupé, ce massacre !»
Le chef des archers s'approcha de Bernard et, avec sa permission, il lui fit un rapport devant tout le monde. Les archers avaient reçu l'ordre de trouver le scélérier et de l'arrêter, et depuis plus de deux heures, ils le cherchaient dans toute l'abbaye. Il devait s'agir, pensais-je, de la disposition donnée par Bernard avant d'entrer dans le chapitre, et les soldats, étrangers à ces lieux, avaient probablement mené leurs recherches au mauvais endroit, sans s'apercevoir que le scélérier, ignorant encore son destin, était dans le narthex avec les autres. Et par ailleurs, le brouillard avait rendu leur chasse plus ardue. En tout cas, d'après les paroles du capitaine, on pouvait déduire que quand Remigio, après que je l'avais laissé, était allé vers les cuisines, quelqu'un l'avait vu et en avait averti les archers, lesquels étaient arrivés à l'édifice lorsque le même Remigio s'en était de nouveau éloigné et depuis fort peu, car dans les cuisines se trouvait Jorge, qui affirmait venir à peine de lui parler. Les archers avaient alors exploré le plateau dans la direction des jardins et là, surgi du brouillard comme un fantôme, ils avaient surpris le vieil Alinardo qui s'était presque perdu. Et c'est précisément Alinardo qui avait dit avoir vu le scélérier, peu auparavant, entrer dans l'hôpital. Les archers s'y étaient rendus, trouvant la porte ouverte. À l'intérieur, ils avaient découvert Séverin inanimé et le scélérier qui, comme un forcené, fouillait sur les étagères en jetant tout à terre, probablement à la recherche de quelque chose. Il était facile de comprendre ce qui s'était passé, concluait le capitaine. Remigio était entré, s'était jeté sur l'herboriste, l'avait oxy, pour chercher ensuite ce pourquoi il l'avait tué. Un archer souleva de terre la sphère armillaire et la tendit à Bernard. L'élégante architecture de cercles de cuivre et d'argent, réunie par une plus robuste charpente d'anneaux de bronze, empoignée par le fût du trépied, avait été assénée avec tant de force sur le crâne de la victime que dans l'impact, nombre de cercles parmi les plus petits s'étaient brisés ou écrasés d'un côté. Et qu'on eût abattu ce côté-là sur la tête de Séverin, les traces de sang le révélaient, et même les grumeaux de cheveux et les éclaboussures immondes et baveuses de matière cérébrale. Guillaume se pencha sur Séverin pour en constater la mort. Les yeux du pauvre malheureux, voilés par le sang jailli de son crâne, étaient écarquillés, et je me demandais s'il avait jamais été possible de lire dans la pupille roidie, comme raconte-t-on, cela s'était passé en d'autres cas, l'image de l'assassin, ultime vestige des perceptions de la victime. Je vis que Guillaume cherchait les mains du mort pour vérifier si des taches noires apparaissaient sur les doigts, quand bien même, en l'occurrence, la cause de la mort était plus qu'évidente. Mais Séverin portait ces mêmes gants de peau avec lesquels je l'avais vu parfois manier des herbes dangereuses, des lézards verts, des insectes inconnus. Cependant, Bernard Guy s'adressait au Célérier.
Remigio de Varagine, c'est bien ton nom, n'est-ce pas? Je t'avais fait rechercher par mes hommes sur la base d'autres accusations et pour confirmer d'autres soupçons. Je vois maintenant que j'étais dans le juste chemin, bien que je me le reproche avec trop de retard. Sire, dit-il à l'abbé, je me juge presque responsable de ce dernier crime, car dès ce matin je savais qu'il fallait remettre cet homme à la justice, après avoir écouté les révélations de l'autre misérable arrêté cette nuit. Mais, comme vous l'avez pu constater vous aussi, durant la matinée, j'ai été pris par d'autres devoirs et mes hommes ont fait de leur mieux. »
Tandis qu'il parlait, à voix bien haute, pour que tous les présents entendissent, et la pièce s'était entre-temps remplie de gens qui se faufilaient de partout, regardant les choses éparses et détruites, se montrant du doigt le cadavre et commentant à mi-voix le grand crime, j'aperçus au milieu de la petite foule Malachi qui observait la scène d'un air sombre. Le Célérier aussi l'aperçut, qui, juste à ce moment-là, était traîné dehors. Il s'arracha à l'étreinte des archers et se jeta sur son frère, le saisissant à la robe et lui parlant brièvement et désespérément face contre face, jusqu'à ce que les archers le tirassent de nouveau à eux. Mais emmené avec brutalité, il se tourna encore vers Malachi en lui criant « Jure ! Et moi je jure !» Malachi ne répondit pas aussitôt, comme s'il cherchait les mots appropriés. Puis, alors que le Célérier de force passait déjà le seuil, il lui dit « Je ne ferai rien contre toi. » Guillaume et moi, nous nous regardâmes, nous demandant ce que signifiait cette scène. Bernard aussi l'avait observé, mais il n'en parut point troublé. Il sourit même à Malachi comme pour approuver ses paroles et sceller avec lui une sinistre complicité. Puis il annonça que, sitôt après le repas, un premier tribunal se réunirait dans le chapitre pour instruire publiquement cette enquête. Et il sortit en ordonnant de conduire le Célérier dans les forges, sans le laisser parler avec Salvatore. À ce moment-là, nous nous entendîmes appeler par Bans, qui se trouvait derrière nous. « Moi, je suis entré sitôt après vous, » dit-il dans un murmure, quand la pièce était encore à moitié vide et Malachi n'y était pas.
« Il sera entré après, » dit Guillaume.
« Non, » assura Bans, « je me trouvais près de la porte, j'ai vu qui entrait. Je vous le dis, Malachi était déjà dedans, avant. »
Quand avant?
Avant que le Célérier n'y entrât. Je ne peux le jurer, mais je crois qu'il est sorti de derrière ce rideau, quand nous étions déjà nombreux ici.
Et il montra une large tenture qui protégeait le lit où d'habitude Séverin laissait se reposer qui venait de subir une médication.
Tu veux insinuer que c'est lui qui a tué Séverin et qu'il s'est retiré là derrière lorsque le Célérier est entré? Demanda Guillaume. Ou encore que de là derrière il a assisté à ce qui s'est passé ici. Sinon pourquoi le Célérier l'aurait-il imploré de ne pas lui nuire en lui promettant de lui rendre l'appareil?
C'est possible, dit Guillaume. En tout cas ici, il y avait un livre et il devrait y être encore parce qu'aussi bien le Célérier que Malachi sont sortis les mains vides.
Guillaume savait, d'après mon rapport, que Bans savait. Et en cet instant, il avait besoin d'aide. Il s'approcha de l'abbé qui observait tristement le cadavre de Séverin et il le pria de faire sortir tout le monde parce qu'il voulait mieux examiner les lieux. L'abbé acquiesça et sortit lui-même, non sans lancer à Guillaume un regard de scepticisme, comme s'il lui reprochait d'arriver toujours en retard. Malachi essaya de rester, prétextant diverses raisons plus vagues les unes que les autres. Guillaume lui fit observer qu'il ne s'agissait point là de la bibliothèque et qu'en cet endroit, il ne pouvait alléguer des droits. Il fut courtois mais inflexible et il se vengea du moment où Malachi ne lui avait pas permis d'examiner la table de Venantius.